Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Hack and Speak. Alors pour ce mois-ci, c'est l'épisode de Noël ou du mois de décembre. On verra si j'arrive à terminer le montage avant. Et comme vous avez pu le constater ces derniers temps, j'aime bien m'intéresser à des sujets qui ne sont pas forcément dans mon domaine d'expertise. Et pour continuer la suite, j'ai décidé de m'intéresser au reverse. Et pour parler de reverse, il me fallait le meilleur, la crème de la crème, le seul et unique Sar ou Stan. Merci d'avoir accepté cette invitation dans ce modeste podcast et bienvenue à toi.
Merci pour ces éloges. Et oui, merci aussi pour l'invitation. Je suis un auditeur du podcast depuis le début et c'est un plaisir de pouvoir être là avec toi ce soir.
Eh ben, ça me fait très plaisir. Pour ceux qui ne connaissent pas Stan, il aura l'occasion bien évidemment de se présenter, présenter son métier, ce qu'il fait au quotidien. Il faut savoir que le sujet du jour, c'est le reverse. On détaillera ce que c'est exactement. Et ça vous permettra de découvrir ce que c'est, voir si c'est un métier qui pourrait vous plaire ou pas. Ou si vous faites actuellement du reverse, voir si ça correspond un peu à ce que vous êtes en train de faire, etc. Je pense que c'est un sujet assez passionnant, pas très souvent discuté. Et donc c'est une très belle occasion de le faire aujourd'hui. Et comme à chaque épisode, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement pour qu'on puisse se situer, savoir qui tu es exactement et qu'est-ce que tu fais ?
Je m'appelle Stanislas, j'ai 29 ans et je travaille dans la cybersécurité depuis que j'ai terminé mes études en 2016. J'ai commencé en tant que pentester. Et puis, j'ai travaillé ensuite dans un CERT en tant qu'analyste, on peut dire, surtout de l'analyse de malware. Et maintenant, je suis chercheur, toujours dans le même domaine, en analyse de malware. Et donc voilà, pour résumer très, très rapidement.
Et qu'est-ce qui t'a fait passer dans le côté cybersécurité, InfoSec ?
En fait, j'ai commencé réellement l'informatique au cours de ma quatrième année, enfin ma deuxième année d'école d'ingénieur, mais du coup, au bac plus 4, on va dire. Et en fait, sachant qu'on a 6 mois de stage en fin de dernière année, en fait, ça revient à quasiment un an et demi d'apprentissage de l'informatique.
Pas beaucoup, hein.
Donc, c'est quand même assez court. Et donc, en fait, on va pas vraiment dans les détails. Et j'ai eu la chance en dernière année d'avoir un cours d'introduction de 2 jours, donc c'est 16 heures, 2 fois 8 heures d'introduction à la cybersécurité. J'ai contacté la personne qui donnait le cours et je lui ai dit bah écoute, ton cours m'a intéressé, qu'est-ce que je dois faire si j'ai envie de m'orienter dans cette filière là et qu'est-ce que je dois travailler. Et donc, cette personne m'a répondu que si je voulais m'intéresser un peu à la cybersécurité, il fallait que j'apprenne beaucoup de choses, que je devais lire des ressources, et que si j'avais envie un peu de creuser un peu le sujet, je pouvais regarder du côté des challenges qu'on peut trouver sur certains sites pour apprendre en fait un peu le sujet.
Newbie exactement.
c'est exactement ce qui m'a conseillé de faire. Il m'a conseillé de m'inscrire sur Root.me et de regarder un peu les différents types de catégories qu'il y avait, ce qui pouvait m'intéresser. Et puis moi, j'étais pas mal intéressé par le web puisque c'était ce qu'on avait vu pendant le cours d'introduction. Donc, j'ai commencé à regarder par là. Et alors, c'est assez drôle parce que le hasard a bien fait les choses. Mais au cours de mon dernier stage du dernier stage de mon école d'ingénieur, j'ai été recruté en tant que développeur Android dans une start-up à Londres. Et le jour où j'arrive, ou le lendemain, je ne me rappelle plus exactement, la CEO, donc on était peut-être 4 ou 5 dans la boîte, la CEO vient me voir et me dit bah, « En fait, on a été racheté il y a une semaine par une plus grosse société. Et donc, en fait, bah, le sujet de ton stage, il ne va pas vraiment avoir de sens, puisque moi j'étais censé travailler sur la plateforme la plateforme de la start-up, et donc vu que ça allait être racheté, ça allait complètement disparaître. Et donc elle m'a dit simplement, bah écoute, t'as 6 mois, si tu veux travailler des sujets pour ton futur emploi, fais un peu ce que tu veux, quoi. Donc moi j'ai un peu vu ça comme un signe du destin. J'avais contacté la personne qui donnait les cours de cybersécurité quelques semaines avant, et je me suis dit, bon, bah là c'est l'occasion, s'il est temps de se mettre un peu s'il est temps de mettre les mains dans le cambouis et de regarder un peu ces sites de challenge, essayer de comprendre, et voilà quoi.
Ça a
Donc
commencé
pendant six
tard, hein, du
mois,
coup, toi, en
ouais,
fait.
carrément, en fait, ça a commencé 6 mois tout simplement avant mon diplôme d'ingénieur. Et donc voilà, pendant 6 mois,
T'as
j'ai
tryhard.
découvert un peu, voilà, j'ai tryhard, entre guillemets. Et à la fin de ces 6 mois, du coup, au moment de terminer mon stage, enfin mon stage, ce qu'il en restait, et de commencer la vie active, et donc trouver un vrai premier emploi, j'ai recontacté cette personne qui m'a dit, ah bah ouais, si tu veux, on peut en discuter, on peut s'appeler au téléphone, tu me dis ce que tu as fait sur Routemi, qu'est-ce qui t'a intéressé, etc., etc. Et donc on s'est téléphoné, et puis il m'a dit, bah écoute, moi je travaille dans une société qui fait du pentest, des tests d'intrusion. Et ben, si ça te dit, on peut éventuellement te faire passer des entretiens pour voir
Ok,
si ça le fait.
donc t'as fait pentester web.
Et donc voilà, donc encore une fois, je remercie cette personne, Antoine, qui m'a donné cette opportunité, et puis même qui m'a simplement orienté un peu dans mon choix de carrière, puisque tout ça, c'est quand même grâce à lui.
Et donc là, tu as dit, tu as fait pentester web, mais après, tu as dit, maintenant, tu fais du reverse. Comment t'es arrivé à faire la transition entre le web et le reverse, qui sont quand même pas du tout liés?
Ouais.
Qu'est-ce qui t'a poussé vers le reverse en fait? C'est quand même très 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 différent, quoi.
Alors déjà, je pense que ce qui me plaisait le plus dans le reverse, c'est le côté un peu, et d'ailleurs c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est le côté un peu, pas mathématique de l'exercice, mais le fait que quand on fait du reverse engineering, ce qui nous intéresse le plus, en fait, c'est de comprendre comment fonctionne le programme qu'on analyse, ou l'application, ou le code qu'on est en train de
Sans avoir le
regarder.
code source, évidemment.
Sans avoir le code source, ou même en ayant le code source, on peut. Pour moi, le reverse engineering, c'est comprendre un bout de code ou une application, et tout simplement, c'est comme un puzzle, quoi. Essayer de récupérer toutes les pièces et de voir le paysage global, en fait, de l'application. Et moi, ce que j'aimais bien dans ces challenges-là, c'est que si ton ordinateur, il est capable de le comprendre, puisque forcément, lui, il exécute le code sans réfléchir, entre guillemets, toi, tu dois être capable de le comprendre aussi, quoi. Tu peux prendre les instructions une par une et comprendre au fur et à mesure ce que tout le programme fait. Et donc ça m'a beaucoup attiré, parce que dans mon quotidien de pentester, souvent je devais travailler sur des applications ou des serveurs sur lesquels forcément on ne sait pas forcément comment ça fonctionne, on n'a pas toute la vision de comment ça marche derrière.
Le black
Et
box.
c'est ça, des fois en fait on était sur des missions où on a un payload qui marche et puis un autre qui ne marche pas. Et puis on ne sait pas vraiment pourquoi, on essaie de deviner un peu comment ça marche de l'autre côté, mais c'est pas évident. Et du coup, voilà, c'était quand j'ai découvert un peu le reverse engineering, et notamment le reverse engineering d'applications d'exécutables sans le code source, je me suis dit, ah bah oui, bah en fait, c'est.
Et t'as découvert comment, en fait?
Alors, c'est. En fait, je viens d'y repenser. J'essaie de m'en rappeler, puis je viens d'y repenser. C'était dans cette entreprise pour laquelle je travaillais, donc en tant que pentester. Il me semble qu'on avait trouvé des credentials en clair, enfin non pas en clair justement, mais encodés
Ou chiffré?
sur un dans un pas chiffré justement, simplement encodés dans un fichier texte sur un serveur de l'entreprise, en fait. Et on s'était dit, ah, bah, c'est bizarre qu'il y ait des credentials ici. Est-ce qu'on pourrait pas passer admin du domaine de la boîte en récupérant ses credentials, puisqu'il me semble que c'était un compte de service avec des privilèges. Et en fait, les credentials étaient encodés avec une application d'une société tierce qu'on utilisait pour faire de l'administration. Je ne me rappelle plus exactement
Mais
comment c'était.
t'as récupéré le binaire, c'est ça?
Et donc, moi, nous, on avait le binaire, puisque l'admin 6 avait encodé les credentials avec le binaire. Donc, moi, je me suis dit, non, mais c'est pas possible, on est forcément capable de récupérer les credentials, vu qu'on a un logiciel qui nous permet de prendre le clear text et de le transformer. Et donc, je sais pas, j'avais passé peut-être une semaine ou 2 semaines à essayer de comprendre comment ça marchait, sachant que j'avais aucune expérience, quoi. J'avais
Là,
vraiment.
t'as fait quoi? T'as téléchargé un IDEA, t'as mis
Ah
le
bah
binaire dedans.
j'ai tapé vraiment le tutoriel reverse engineering d'application.
Reverse online.
Ouais, c'est ça, j'y connaissais pas grand-chose et donc ouais, j'ai téléchargé. Alors j'avais téléchargé, je sais plus quel debugger, mais je crois que c'était X32 DBG ou Immunity Debugger, mais en tout cas un debugger Windows. Et j'avais passé mes deux. J'avais même pas IDA, je pense que j'avais seulement utilisé le debugger. Et je me rappelle à la fin, j'avais 200 breakpoints dans l'application. Enfin, c'était. Je ne m'y retrouvais plus. Et puis à la fin, j'ai réussi à comprendre le fonctionnement du programme. Et du coup, j'avais réécrit en Python un petit programme en fait, qui prenait le mot de passe encodé et qui le décodait, quoi. Et donc, ça a été ma première expérience.
Et donc t'as réussi et après comment tu t'es pentester web et tout et comment tu te dis bon faut que je m'entraîne ou que je tryhard parce que potentiellement ça pourrait être un métier ou est-ce que tu te lances direct, tu cherches un métier direct dans le reverse sans forcément d'expérience?
Non, j'ai passé beaucoup de temps. Bah, à cette époque-là, j'étais à Paris et j'ai pas beaucoup aimé la vie à Paris. Donc, je passais beaucoup de temps en fait à chez moi, du coup, à faire du reverse engineering, à découvrir, à commencer. Parce que du coup, vu que je commençais, je suis vite tombé accro un peu à analyser des programmes, etc., etc. Et donc, en fait, la solution la plus simple, ça a été de continuer à faire des challenges. D'abord sur Routemi, puis ensuite sur tous les sites que je pouvais trouver. Donc ça a été ouais, globalement ça a été surtout faire des challenges avant d'éventuellement pouvoir postuler dans une société pour pouvoir faire du reverse engineering en tant que
Ok, et ben c'était très clair sur le pourquoi tu aimes le reverse et qu'est-ce qui t'a amené à faire du reverse. Maintenant, là où, à l'heure actuelle, c'est ton métier de chercher, tu as dit, tu es chercheur, et tu fais du reverse au quotidien pour les besoins de ton métier. Et donc ma question c'est, qu'est-ce que tu fais comme type de reverse? En fait, en quoi consiste ton métier exactement? En fait, ma question, c'est plus généralement quelqu'un qui se dit ah, j'aime bien le reverse, je suis passionné de reverse. Qu'est-ce que je peux faire déjà comme métier dans le reverse et un peu ce que tu peux décrire dans ton quotidien pour savoir un peu à quoi il peut s'attendre dans la branche dans laquelle tu es, quoi.
Oui, alors donc moi je fais du reverse engineering, je fais surtout de l'analyse de malware. Et bien sûr, il y a plein de métiers dans le reverse engineering. Moi, je vais en présenter un, mais c'est qu'un métier parmi tant d'autres. Et donc moi, je suis plutôt du côté défensif, on va dire, puisque mon objectif, en fait, c'est de prendre des malwares. De les analyser, de les comprendre, et du coup, je vais expliquer un peu tout ce qui va avec. Donc, déjà, il faut savoir que moi, je fais de l'analyse de malware, mais le reverse engineering, ça, c'est pas du tout 100% de mon temps. Je passe pas ma vie à faire du reverse engineering. Je passe une grosse partie de mon temps à en faire, mais bien entendu, c'est pas que ça. J'écris aussi de la documentation, je discute avec d'autres gens sur des fonctionnalités, je développe des émulateurs en Python. Donc, c'est pas que du reverse engineering. Mais globalement, pour essayer de résumer, moi, mon métier, c'est essayer de comprendre comment fonctionnent certaines familles de malware. Donc, pour le côté reverse engineering, bah, c'est simple, hein, on télécharge le malware, la famille de malware, on l'analyse, on comprend comment ça fonctionne. On va écrire de la documentation pour expliquer aux gens avec qui on travaille comment ça fonctionne. On va documenter les mises à jour du malware, puisque forcément un malware, on peut voir ça comme comme une application, comme un logiciel, et forcément les gens qui développent les malwares, ils vont également pousser des updates, des mises à jour, et donc nous, à chaque mise à jour, on va regarder les différences qu'il y a à l'intérieur, essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils ont changé, qu'est-ce qui a été modifié.
Tu fais une
Et
sorte
donc oui.
de diff du programme reversé, du diff de
Ouais, exactement.
l'assembleur, du diff de bootcode.
Exactement. On a des programmes spécifiques qui font exactement ce truc-là, quoi, qui vont prendre deux binaires et qui vont comparer les fonctions, comparer les données qu'il y a à l'intérieur et dire bah, ça a été modifié, etc., etc. Donc on a des logiciels qui fonctionnent pour ça. Et donc voilà, nous, le but, c'est aussi de documenter du coup les mises à jour, voir ce qui a changé et éventuellement communiquer avec d'autres chercheurs dans d'autres entreprises pour savoir quelle famille de malware quelle famille sur laquelle ils sont en train de travailler, etc., etc. Et de temps en temps, participer, par exemple, à des opérations, pas directement participer, mais en tout cas communiquer avec des law enforcement, donc des forces de l'ordre en français, parce que eux, c'est eux qui ont légalement, c'est eux qui ont le droit de taper à la porte des acteurs, des développeurs de malware, etc. Et donc, si on a des informations, si on a étudié pendant des mois et des mois une famille de malware, on va pouvoir leur donner des informations sur ce qu'on a vu.
Ok, ah, ça, genre le mec qui signe son truc avec son nom ou...
Non,
Non, ça n'existe
pas
pas ça.
directement, mais c'est plus au niveau des. Forcément, quand on développe un malware, on va avoir besoin d'un serveur de contrôle pour éventuellement donner des tâches à effectuer aux bots, donc aux ordinateurs qui sont infectés. Et donc à partir de là, il y a toute une séquence, on va dire, de traçage où on peut essayer de remonter à partir des noms de domaine,
Après, celui-là qui développe et celui-là qui l'utilise, c'est pas forcément finalement les mêmes personnes, tu vois.
C'est pas forcément les mêmes personnes, c'est vrai. D'ailleurs, il y a des la plupart des malwares, je suppose que c'est des gens qui les développent, et puis en fait ils les utilisent pas forcément pour eux, ils les vendent à d'autres acteurs, ils les vendent à d'autres personnes. Donc c'est tout un gros réseau en fait d'achat et de revente de malware. Donc c'est assez difficile d'y voir clair dans tout ça, parce que forcément nous, finalement, ce qu'on voit à la fin, c'est juste des serveurs et des applications qui communiquent avec ces serveurs. Donc c'est assez limité, mais donc le but, et moi mon but, c'est de faire tout ce qui est en mon possible en fait pour récupérer le maximum d'informations sur ces malwares, sur ces serveurs, sur tout ça, pour essayer de démêler un peu comment ça fonctionne, et voilà.
Et du coup, la finalité du reverse que tu vas faire, des informations que tu as pu récupérer, c'est pourquoi? C'est pour un logiciel en antivirus, un EDR ou...
Alors moi, dans le cadre de mon travail, donc moi je travaille pour une société qui va globalement fournir un service aux entreprises qui le souhaitent. Donc certaines entreprises vont payer le service de la société dans laquelle je travaille, et nous on va leur donner des informations du coup sur les infections, sur par exemple telle adresse IP est infectée avec telle famille de malware, ou alors telle adresse IP à telle date a distribué telle famille de malware, etc., etc. Et donc en fait, moi, l'output, on va dire, de mon travail, c'est récupérer le plus de données. Donc par exemple, nous, un truc qu'on fait pas mal dans l'entreprise pour laquelle je travaille, c'est du syncalling. Donc je ne connais pas exactement le terme
Ah bah, je connais
en
pas non
français.
plus.
Alors j'explique, c'est assez simple. En fait, c'est syncalling, ça va être tout simplement acheter un nom de domaine qu'on va trouver dans un malware. Donc, éventuellement, soit parce qu'il a expiré et que du coup les acteurs n'ont pas renouvelé le nom
Le
de domaine. Donc
domaine,
nous,
ouais.
on le récupère. Ou alors, par exemple, parce que ça vient d'un DGA, c'est Domain Generation Algorithm. Il y a certains malwares qui utilisent ça. C'est un algorithme en fait qui va contacter, enfin qui va générer des noms de domaine, et en fonction du jour dans l'année, il va contacter tel domaine,
Et
quoi.
donc toi, tu
Donc,
achètes les domaines à l'avant, enfin là, tu achètes les
nous, on
domaines à
les achète, c'est
l'avance,
ça exactement, on
et
les achète.
ça flingue tout le truc en fait, enfin de leur côté.
Entre, ouais, c'est plus ou moins ça. Et donc, nous, en fait, forcément, vu qu'on est. Bah, du coup, maintenant, vu qu'on est les propriétaires de ces noms de domaine-là, on va pouvoir bah, récupérer tout le trafic qui vient des ordinateurs qui sont affectés. Et donc, on va avoir beaucoup de données qui disent bah, cet ordinateur-là est infecté avec telle famille de malware, puisque en amont, on a fait l'analyse du malware et on sait à quelle famille de malware ça correspond. Et donc voilà, c'est
Ah, c'est
par exemple
intéressant.
un.
C'est un petit peu le jeu entre le développeur du malware et les mecs qui défendent. C'est un petit peu un jeu, quoi. Je suppose que par exemple l'algorithme pour générer des noms de domaines aléatoires, mais de façon prédictible en fonction du jour, du mois, etc.
Exactement.
Il le cache, non, dans son code pour pas que ça se voit tout de
Ouais,
suite.
le but c'est bah, de toute façon après en général dans les malwares, souvent ce qui est le plus ce que les acteurs essaient de cacher le plus, ça va être oui comment fonctionne la partie communication, les données importantes, elles vont être chiffrées, etc. etc. Et forcément, s'il y a un algorithme de génération de noms de domaine, des fois c'est simple, des fois c'est complexe, mais en général on est toujours capable
Et est-ce que des fois tu
de
tombes
le récupérer.
dans des espèces de rabbit hole où ils ont fait tout un pan de code et en fait ça sert à rien, c'était juste pour faire perdre du temps ou.
Ah ouais, bien sûr, et ça m'est arrivé très très récemment, pas plus tard que la semaine dernière, où j'étais en train, bah, j'ai analysé en gros, on a un émulateur qui émule le comportement d'une machine infectée par un malware qui s'appelle Private Loader. C'est un malware assez connu, et sa fonctionnalité, c'est de dire aux ordinateurs infectés, bah, télécharge tel. Malware à telle URL. Donc en fait, c'est un virus qui va simplement te dire de télécharger d'autres virus. Et donc, nous, vu qu'on a un émulateur, on sait exactement quels sont les URL qui sont distribuées. Et donc là, je m'intéresse à une URL qu'on n'arrive pas forcément à catégoriser. Catégoriser, ça veut dire quel type de malware se trouve. Bah, quel est le malware qu'on télécharge à cette URL-là. Et donc, je commence à l'analyser, etc. Et je comprends qu'il y a énormément de layers, enfin de couches de chiffrement. Et donc, je déchiffre les couches une à une. Ça me prend beaucoup de temps. C'est très compliqué. Et à la fin, en fait, je tombe sur un malware qui est pas très compliqué. Et ça m'étonne un peu parce que en fait, toutes les couches de chiffrement, c'était plutôt complexe. Et donc je me dis, bon, bah ok, c'est ça, bizarre, mais d'accord, j'accepte quoi. Et en fait, j'y retourne le lendemain, je me dis, non, mais c'est bizarre quand même, c'est bizarre que ce soit un malware si peu complexe, alors que toute cette partie de couche était bien plus compliquée. Et en fait, je me suis rendu compte que dans la dernière couche, avant de distribuer le malware que j'avais trouvé à la fin, il y avait un check qui vérifiait que le malware tournait pas dans une machine virtuelle. Et moi, j'avais pas vu cette vérification-là à cause de l'obfuscation.
Du coup, il te donnait un truc tout pété, quoi.
Et en fait, exactement, c'est qu'il y avait du coup l'étape d'après, la couche d'après, il y en avait deux. Et que si la machine virtuelle, enfin si le virus tournait sur une machine virtuelle, dans ce cas-là, il déchiffrait le malware. Bah celui que j'avais trouvé forcément qui était un vieux malware pas très intéressant et du coup dans l'autre cas il distribuait
Et
la
du coup,
couche suivante
tu
donc
fais quoi? Tu patches le truc? Tu te mets dans une machine
non
un peu moins détectable en tant que machine virtuelle
non là, là simplement je suis retourné sur enfin du coup j'ai trouvé le check en mémoire dans le débuggeur
Ah oui.
et oui bah j'ai patché en
Ouais,
mémoire
tu
du coup
patches. Ouais, c'est ça.
ouais c'est ça.
Bonne vieille technique root me. Ok, bah c'est intéressant. Donc c'est un peu vraiment, c'est vraiment même le jeu du chat et de la souris, quoi. Donc
Ouais.
ok. Et du coup, ça a donné quelque chose d'intéressant. Du coup, quand t'as passé la condition, tu dis, ah là, c'est pour ça qu'ils l'ont caché, tu vois.
Alors, J'ai pas encore fini l'analyse de ce malware-là, mais parce que c'est vraiment là, je te parle d'un truc qui s'est passé il y a quelques jours. Et en fait, oui, je suis pas du tout à la fin. Il y a encore plusieurs couches à analyser, donc ouais, j'ai pas complètement terminé. Mais du coup, pour revenir sur ce dont on parlait au niveau des métiers, moi c'est plutôt ce que je fais dans ma société. Mais comme toi, tu le disais, si tu travailles dans une société qui vend des solutions
Ouais, du
antivirales,
EDR,
des EDR, etc. En fait, là, l'output de ton travail, ça va être plutôt, bah, je vais analyser des malwares, je vais créer des règles de détection, par exemple, en mémoire, soit des règles IRA, par exemple,
là, c'est différent.
et je
Donc
vais
c'est
les
un
intégrer dans ma solution antivirale, dans mon EDR, pour permettre à mes clients d'avoir une protection sur ce type de malware, quoi.
là, c'est ce que fait Frogger, Thomas Roquet, au final, pour Microsoft. C'était ça son métier. Et même, il disait qu'il faisait assez peu de reverse au final. Et pour revenir à l'exemple que tu as dit précédemment, où il y avait plusieurs couches, puis finalement, il faisait un check, et finalement, il donnait un vieux malware tout pété, si c'était dans une sandbox, etc., une machine virtuelle. Est-ce que ça, tu penses que tu l'as détecté, enfin, c'est l'intuition qui t'a fait dire, c'est quand même pas possible, grâce à l'expérience? Où tu te dis, enfin, tu te dis, si ça avait été un des premiers trucs que j'aurais dans mes premières années, bah, je me serais fait avoir en fait, tu vois, et je serais passé à côté du truc.
Je dirais que bah déjà moi je me suis fait avoir tout simplement j'ai pas ça
Ouais,
m'est venu
mais.
le lendemain ou le surlendemain en y réfléchissant je me suis dit c'est quand même bizarre peut-être que ça m'a non je pense pas que ce soit de l'expérience c'est plus le fait que ouais c'est plus la différence de complexité
Ouais,
entre le packer on
statistique,
va
ouais.
dire
Tu t'es dit
et la
pourquoi ils ont
charge
fait
finale.
autant d'efforts pour si peu, quoi.
Oui, c'est ça. En fait, le truc qui m'a fait un peu tiquer, c'est il y avait énormément d'obfuscation dans le packer, et il n'y avait absolument aucune obfuscation dans le payload final. Et je me suis dit, c'est si tu mets autant d'obfuscation dans ton packer, c'est que tu es capable de le mettre aussi dans le payload final. Et donc, je me suis demandé pourquoi il n'y en avait pas dans le payload final, et je me suis étant donné qu'il y avait dans les couches précédentes énormément de checks, d'anti-debug, etc., je me suis dit que j'étais peut-être tombé dans le panneau, quoi.
Mais écoute, tu l'as presque fait, mais on va quand même continuer sur ce
Ouais.
sujet. Est-ce que tu n'aurais pas quelques anecdotes croustillantes pour régaler un petit peu nos auditrices et auditeurs? Puisque visiblement, j'ai l'impression que tu peux aller dans ton métier de petite surprise en petite surprise. Mais oui, moi, j'aimerais bien que tu nous racontes une ou deux anecdotes si tu as dans ta besace.
Oui, bien sûr. Alors, bon, une anecdote qui m'est arrivée il y a cette année, c'était au début de l'année 2023. Je travaillais sur une famille de malware qui avait jamais été trop documentée, qui était globalement ouais, pas très connue, mais que je savais qui était plutôt. Plutôt grosse, plutôt active, tout simplement parce qu'on avait la possession d'un nom de domaine qu'utilisait cette famille de malware. Et donc on voyait qu'il y avait pas mal de connexions sur ce nom de domaine-là. Donc je savais que c'était un malware qui avait au moins potentiellement 100 000 ordinateurs infectés dans le monde.
Ah oui, parce que c'est beaucoup ça ou c'est pas beaucoup
C'est pas mal. C'est
Ouais.
pas le plus gros botnet qui existe, bien sûr, mais ça commence à être une bonne un malware avec un peu d'ampleur, on va dire. Et donc je m'intéresse un peu à cette famille de malware. Je regarde comment ça fonctionne et en fait c'est un malware qui transforme ta machine infectée en proxy. Donc, elle transforme ta machine en proxy, et toi, bah, tu vas te connecter au serveur de commande et tu vas demander bah, s'il y a des sites à aller voir et à proxifier. Et donc, moi, je me dis, bon, bah, ce malware-là, en fait, il doit sûrement être vendu comme un service de proxy, forcément. Si tu changes ta machine en proxy, c'est qu'il y a bien quelqu'un qui derrière doit l'utiliser. Et puis moi, quand dans mes émulateurs, je voyais bien que j'avais des connexions vers Facebook, Instagram, etc., etc. Donc c'est qu'il y avait forcément des utilisateurs qui utilisaient ma machine virtuelle en tant que proxy. Et donc j'essaie de faire un peu les liens avec les services de proxy que je trouve sur certains forums, plutôt illégaux. Et
C'est pas Google proxy.com online.
ouais. Et du coup, j'arrive à faire le lien en fait entre un service de proxy et le malware que j'étais en train d'analyser. Et donc j'en parle avec les gens avec qui je travaille. Ils me disent, bon, bah, ça vaut peut-être le coup de faire un blog post pour expliquer du coup la relation entre tel service de proxy et tel malware. Donc j'écris un blog post, voilà, on le publie. Et puis quelques jours plus tard, je reçois un message LinkedIn de Brian Krebs, qui est alors je ne sais pas exactement comment le qualifier, mais je dirais que c'est un peu un journaliste d'investigation qui est très orienté cybersécurité, cybercrime et malware en général, qui me contacte et qui me dit, bah, en fait, l'association que tu as fait entre le malware et le service de proxy, je pense que je sais qui est derrière tout ça, qui est à l'origine de tout ça. Et donc lui, il publie également une semaine après un article qui explique, enfin, je me rappelle plus exactement ce qu'il dit dans l'article, mais en tout cas, il fait le lien entre une personne potentiellement de je sais plus quel forum et du coup la famille de malware et le service de proxy, et il mentionne mon nom et la recherche que j'ai effectuée et le blog post qu'on a publié avec mon entreprise dans son blog post à lui. Et donc voilà, les jours passent et en fait au bout de 2 semaines, tout en continuant à suivre l'activité de ce malware, je remarque que il y a une update du malware qui est poussé sur ma machine. Et donc je commence à analyser la nouvelle version de ce malware. Et en fait là, je remarque que parmi les serveurs de command and control, il y a un des serveurs de command and control qui est mon nom en fait, nom point prénom point RU. Et donc ça a été un peu la surprise de découvrir son propre nom dans un malware. Il y avait aussi le nom de Brian Krebs, le journaliste d'investigation. Et donc c'était un peu la preuve
Il
que
suit aussi
notre
l'actualité de son
recherche
côté.
après. C'est surtout qu'on avait eu un peu de portée et que du coup, ils avaient été, je sais pas comment, mis au courant que quelqu'un ou plusieurs personnes étaient en train de faire de la recherche sur leur site de proxy. Donc voilà pour la petite anecdote.
Donc tu as réversé le truc et tu t'es rendu compte que c'était de domain name, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Ben en fait, c'est encore plus simple que ça. C'est que c'était même avant de commencer l'analyse de malware. Je sais que dans cette famille de malware, une fois que l'unpacking a été fait, le nom de domaine du command and control est en clair. Donc en fait, j'ai tapé strings. Enfin, j'ai fait un strings
Ah, tu t'es
sur le
trouvé.
binaire et j'ai vu mon nom et je me suis dit, ah ouais, j'ai peut-être.
Ah, c'était en
Donc
fait,
voilà.
c'était envoyer un message. Hein, on sait, nous aussi, vous nous cherchez, enfin, vous nous analysez, mais nous aussi, on lit ce que vous faites sur
Oui,
nous,
je pense que
quoi.
c'est un clin d'œil, hein, tout
Ah, c'est
simplement.
ça.
C'est un clin d'œil des personnes qui développent ça ou personnes qui les analysent, quoi. C'est vous intéresser à ce qu'on fait nous, donc on vous envoie un petit clin d'œil, quoi. Je pense que c'est pas plus que ça.
Une autre question que j'avais qui m'est venue là, quand tu décris tout ce que tu fais, que tu analyses, que tu regardes les différences, tu regardes les patchs, etc., sur plusieurs semaines, etc. Imaginons que tu analyses une famille de malware, tu te rends compte que c'est un réseau de botnet qui a 100 000 PC, tu vois, enfin, qui
Ouais.
contrôle, donc ça contrôle 100 000 postes, etc. Est-ce que toi, ça te fait pas bizarre de, en quelque sorte, bah, pouvoir rien faire, tu vois, tant que le law enforcement, il n'y a que eux qui peuvent take down. Et toi, en fait, tu n'es juste que spectateur de ce qui se passe en fait, qu'il y a un gros, par exemple, réseau de botnet qui est en train potentiellement d'attaquer ou de faire des choses pas propres, et toi tu es que spectateur. Comment tu gères ça?
Bah, c'est le gros point négatif en fait, c'est que nous on fait de la cybersécurité défensive, mais globalement on est aussi beaucoup spectateur de ce qu'on voit. On n'a pas toujours l'occasion de faire tomber des botnets, et puis la plupart du temps on est simplement spectateur. On n'a même pas souvent la chance de pouvoir savoir la taille d'un botnet. Souvent le seul truc qu'on peut faire c'est créer un émulateur, récupérer les updates, récupérer les modules, voir un peu l'activité, mais des fois on peut pas faire plus que ça. Et bah là, c'est simplement accepter le fait qu'on n'est qu'un pion sur le grand échiquier du cybercrime et des malwares en général. Et donc, au contraire, je pense que c'est d'autant plus gratifiant quand on participe à une opération ou quand on a l'occasion de collaborer avec des polices pour faire tomber un réseau ou une famille de malware. C'est d'autant plus gratifiant, je pense.
Ouais, c'est intéressant. Une autre question que j'avais, c'est, je sais pas si tu te rappelles de l'époque WannaCry, où il y avait un Anglais qui avait trouvé un nom de domaine qui en fait était un kill switch. Est-ce que ça, tu le vois encore, ce système de kill switch à l'intérieur, où ils ne le font plus ou
Alors,
différemment?
c'est pas quelque chose qu'on retrouve fréquemment. En tout cas, moi, c'est pas quelque chose que je vois beaucoup. Il y a toujours un peu de kill switch, on va dire, mais qui ne sont pas forcément réseau. Donc là, c'était un kill switch réseau. En fait, si je me rappelle bien, alors je me rappelle plus exactement de l'histoire, mais il me semble que dans le malware, dans WannaCry, il y avait un check qui était fait sur le domaine. Alors ça vient souvent du fait que quand on lance un malware dans une VM et qu'on a des logiciels qui tournent pour loguer en fait les communications réseau, en fait souvent on va avoir un logiciel qui fait que qui répond en fait à toutes les requêtes DNS, et donc
Ah,
potentiellement
d'accord.
ça peut c'était peut-être, je suis pas du tout certain parce que j'ai pas
Possible,
analysé
hein. Après, c'était une autre époque,
WannaCry, mais
c'était 2017 quand même.
c'est ça. Mais c'est pas quelque chose qu'on retrouve. Enfin, des kill switch réseau, c'est pas quelque chose que je vois énormément. Il y a beaucoup de kill switch, comment dire, sur la machine, locaux plutôt, où par exemple, on trouve au tout début de l'exécution du malware, s'il existe tel fichier qui a tel nom dans tel dossier de la machine Windows, alors le malware ne s'exécute pas. Donc ça, c'est des choses qui existent, mais des kill switch réseau, pas spécialement.
Et vous avez jamais pu, à force de complètement reverse le truc, je sais pas, avoir les devs ont fait une énorme erreur, ils ont laissé un gros mot de passe qui est utilisé pour leur infra, pour ce qui était une console d'administration,
Ah.
qui permettrait de contrôler. C'est jamais
Alors moi,
arrivé des
j'ai
grosses grosses erreurs, genre une clé privée qui reste ou je sais pas, un truc comme ça.
Alors, ah si, j'ai en fait j'ai une petite histoire comme ça.
Et
J'ai
voilà.
dans un malware que j'ai analysé il y a 1 an et demi, c'était au niveau de la communication réseau. En fait, il y avait, si tu veux, le serveur et le client, la machine infectée, échangeaient toujours un buffer en fait de, je sais plus combien, c'était 400 octets, il me semble, quelque chose comme ça, dans cet ordre de grandeur-là. Et en fait, ce buffer-là n'était pas correctement initialisé à zéro lors des communications entre le client et le serveur. Et si on envoyait beaucoup de requêtes de registration, enfin, souvent quand un malware, quand un bot, quand une machine infectée se connecte pour la première fois au serveur de commande, il va envoyer une requête de. Enfin, Hello qui dit je suis un nouvel ordinateur infecté, on va dire. Et on avait remarqué que si on envoyait plein de fois ce message-là, en fait, on arrivait à dumper une petite partie de la mémoire du serveur. Et parmi ce. Et vu que ce serveur, vu que cette famille de malware-là utilisait une clé privée, enfin une clé des RSA pour chiffrer les communications. En fait, on avait réussi à dumper une partie seulement de la clé
Ah.
privée. On n'a pas réussi à la reconstruire malheureusement, mais c'était intéressant de voir
Super
ça.
intéressant. Ouais, c'est comme c'est une super histoire. Pour clôturer sur ce sujet du reverse, quel tool tu utilises au quotidien? Est-ce que c'est Radar 2, R2? Est-ce que c'est Hydra? Est-ce que c'est des outils custom? Qu'est-ce que tu dis?
Alors,
Qu'est-ce que tu dis?
on
Hydra
peut dire,
Teams
il
là, Hydra
y a...
Teams serveur.
Donc, il y a plusieurs logiciels qu'on utilise. Bon, après, je pense que ça dépend. Les gens qui font le même métier que moi n'auront pas les mêmes réponses que moi, très probablement. Mais généralement, quand on fait de l'analyse de malware, on utilise des logiciels comme des assembleurs, des débuggeurs, pour citer que deux familles de logiciels. Donc un désassembleur, ça va être un logiciel qui permet de prendre le code machine, donc le bytecode et plus généralement les formats exécutables, donc que ce soit sur Windows, sur Linux, sur Mac, etc. Et qui va en fait afficher et désassembler les instructions qui sont présentes dans les exécutables. Et donc, on va avoir accès au code assembleur qui se trouve dans les exécutables. Souvent, des assembleurs, ils ont aussi des petits modules intégrés qui sont des décompileurs, qui permettent de transformer le code assembleur en pseudo-code C. Donc, ce n'est pas toujours évident de retrouver du code C comme il aurait pu l'être à l'origine, mais en tout cas, le décompileur essaie de faire le travail pour faciliter la tâche de l'analyste. Et aussi, on utilise des débuggeurs pour pouvoir faire de l'analyse dynamique et essayer de comprendre, d'analyser, d'avancer pas à pas dans l'exécution du programme. Et donc, moi, personnellement, j'utilise en tant que désassembleur, j'utilise surtout Ghidra, qui est un logiciel qui a été développé par la NSA et qui est open source maintenant depuis 4 ou 5 ans. J'utilise aussi IDA, hein, franchement, ça dépend, mais plus généralement, j'utilise plutôt Ghidra. Et après, mais c'est souvent, il y a des débats sur Internet de tel désassembleur est meilleur que celui-ci. En fait, c'est pas vraiment un sujet, c'est plus est-ce que toi tu es à l'aise avec l'outil que tu utilises et est-ce que tu as tes habitudes sur l'un ou sur l'autre. Globalement, les 3-4 des assembleurs les plus avancés aujourd'hui, ils permettent de faire énormément de choses. Si tu es familier avec un de ces outils-là, tu pourras faire plus ou moins tout ce que tu veux.
Ok, ça marche. Oh, c'est une question comme ça.
Préférence personnelle.
Non, mais bah, Ghidra, c'est donc c'est open source, donc il n'y a pas de payant. Et IDEA, par contre, c'est payant, c'est ça?
C'est ça. IDA, c'est payant. C'est un système d'abonnement, il me semble, où tu renouvelles ta licence chaque année. C'est assez cher, mais bon, les entreprises en général peuvent se le permettre. Et il y a aussi une autre alternative payante, mais plus accessible, ce qui s'appelle Binary Ninja, qui est plus récente, mais qui est très à la mode et qui fonctionne assez bien.
Ok, et bien merci pour cette présentation de tool. Et maintenant, notre dernier sujet. Il y a quelques années, tu t'es lancé dans la création d'un site qui s'appelle crackmiz.one, qui a pour but, si j'ai bien tout compris, de mettre à disposition un maximum de challenges
C'est
exécutables.
marrant que tu le décrives comme ça parce que c'est un peu la manière dont je l'aurais décrit moi. Et justement, c'est pas comme ça que les gens le décrivent en général. Mais oui, c'est un site internet en fait qui a pour vocation, je dirais, d'être une énorme base de données de CrackMe.
Des craquemis, ouais,
Donc
voilà.
un CrackMe, pour décrire un peu ce que c'est et comment ça fonctionne, c'est un petit logiciel qui tourne soit sur Windows, soit sur Linux, Mac, Android, peu importe, c'est un petit logiciel dont on n'a généralement pas le code source, qui, quand on l'exécute, demande d'entrer un mot de passe, et qui, en fonction du mot de passe qu'on tape, va dire bien joué, ou alors bah, c'est pas le bon mot de passe, quoi. C'est assez simple. Et donc, souvent, c'est des petits challenges, en fait, où le but, c'est simplement d'analyser le programme, comprendre comment il fonctionne, pour éventuellement trouver le mot de passe et donc un peu réussir le puzzle, on va dire. Et donc, en fait, ce site-là, Crack Me One, c'est un site que j'ai créé, du coup, il y a quelques années maintenant, et dont l'objectif, c'est simplement d'être une grosse base de données qui répertorie des tonnes et des tonnes de crack me, donc ces petits challenges. Et donc, en fait, c'est une interface assez simple sur laquelle on peut télécharger les différents crack me, les ch chercher en fonction de la difficulté, des plateformes, du type de langage dans lequel ça a été écrit, potentiellement soumettre des solutions à ces exercices-là.
Et comment tu sais, enfin, c'est un mec qui peut soumettre un crack
Ouais, c'est
me.
ça, exactement. En fait, quand on crée un compte, on peut télécharger des crack-me, mais on peut aussi en soumettre. Et donc, une fois qu'on a soumis un petit challenge, un crack-me, il est passé en revue, et s'il passe le filtre, il sera publié sur
Petit
le site.
virus là.
Ouais, bah c'est donc pour expliquer un peu comment ça fonctionne, c'est le filtre, c'est moi. Hein, il n'y a pas de filtre automatique. C'est moi qui fais l'analyse. Bon, c'est une analyse assez simple en général. Il n'y a pas de. J'analyse rapidement, tout simplement parce que ça me prendrait trop de temps sinon. Et puis de toute façon, c'est recommandé à plusieurs différents endroits sur le site de moindre doute. Il faut télécharger dans une machine virtuelle, exécuter dans une machine virtuelle, tout simplement pour cette raison. Donc oui, il y a des gens qui ont essayé de pousser des virus, mais c'est pas le plus commun, on va dire. Le plus commun, c'est des gens qui soumettent des vraies applications qui contiennent un code à entrer pour pouvoir débloquer certaines fonctionnalités, et qui demandent, en fait, bah, du coup, aux gens qui en ont les
La
moyens
sauce.
de, ouais, voilà, de
Aïe,
comprendre
aïe, aïe,
l'algorithme et
aïe,
de trouver le mot de passe.
aïe. Ah,
Donc
c'est
ça
marrant
non
ça.
plus, ça ne passe pas le filtre.
Ok, c'est marrant. Oui, j'avais vu. Bah, je sais pas si c'est très actif ou pas.
Ouais,
Peut-être.
globalement, c'est assez actif. J'ai quand même pas mal
Petite
de sites
communauté et
connus.
tout.
Oui. Ouais, il y a une petite communauté. Ça n'a rien de comparable avec un énorme site de challenge comme peut être Hack the Box ou RootMe. Mais non, c'est une petite communauté de gens qui ont envie d'apprendre, de découvrir un peu le reverse engineering, qui soumettent des challenges. Et j'allais simplement préciser que tu connais bien aussi le site, puisque c'est toi qui as fait le design il y a bientôt 5 ans.
C'est vrai que j'allais le mentionner, que le design
T'as
était.
oublié de préciser ça.
Ouais, mais j'allais dire vraiment, le site était vraiment beau, quoi. Vraiment clean.
Merci.
Moi, j'ai un peu honte parce que maintenant, quand je le regarde, je me dis que c'était peut-être pas si bien que ça.
Ah bah en tout cas,
Mais.
ça plaît, et il n'a pas évolué en 5 ans. Donc
Mais voilà. Écoute. Si personne se plaint dans la communauté, alors c'est que c'est un bon design. Mais écoute. Merci beaucoup pour cet épisode. Je pense que c'était très instructif. En tout cas, moi, j'ai appris plein de choses et je trouve que c'est un métier très passionnant et qui a un rythme de travail très différent du pentest. Thomas, enfin Frogger, nous en avait déjà plus ou moins parlé. Et là, c'est pareil, on est rentré, mais ce que tu fais est un petit peu différent. C'est vraiment, il y a vraiment plein de métiers dans le reverse. C'est un
Ouais,
petit peu différent.
et
C'est.
d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais avant de faire le métier que je fais aujourd'hui, je travaillais dans un CERT, et c'est clairement pas la même vitesse de travail, dans le
Et tu
sens
faisais
où
aussi du reverse.
je faisais aussi du reverse, et souvent là, c'est de la réponse à incident, puisque tu vas analyser un malware qui est potentiellement sur ton, sur ton parc informatique. Et donc là, ça ne va pas du tout être le même métier. Tu
Et
vas
ouais.
essayer d'aller à l'essentiel. C'est un job qui est beaucoup plus court en durée parce que tu dois donner des réponses assez rapidement
Ah ouais,
pour
c'est
pouvoir éventuellement faire des remédiations, tout ça.
suivant le rythme que tu as de vie, etc., tu peux vraiment choisir la branche un peu qui te plaît dans le reverse.
Ouais, on peut dire ça comme ça.
Eh bien, écoute, merci beaucoup pour cet épisode. J'espère que ça t'a plu. Je sais pas si c'était le premier podcast que tu fais.
Ouais.
Ah,
Et
bah, j'espère que
bah
ça
ouais,
t'a
c'était
plu
un
alors.
très très bon exercice, très intéressant.
Quant à moi, chers auditrices, auditeurs, je vous dis à très bientôt pour cette année 2024. On va essayer de sortir l'épisode en 2023, ce sera le dernier de l'année. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve l'année prochaine, enfin, suivant quand vous écoutez l'épisode, pour de nouvelles aventures. On va continuer pour une prochaine saison avec encore plus d'invités. Quant à moi, je vous souhaite de très bonnes fêtes. Petit mot de la fin pour toi, si tu veux.
Merci, merci encore et bonne fête.
Bonne fête à tous.
Ciao, ciao.